Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 10 et le titre sera « La main du Père ». Voici une petite anecdote d'un père d'une petite fille. Il dit ceci, « Ma fille est née chez Sika, commençait tout juste à marcher quand je me souviens l'avoir amené promener dans les bois. Alors que nous nous apprêtions à gravir une petite colline, je me penchais vers elle pour saisir sa petite main dans la mienne. Je ne voulais surtout pas qu'elle trébuche et se fasse mal. Bien sûr qu'il y a fort longtemps de cela. Et je ne voulais surtout pas, oui, qu'elle se fasse mal. Alors, sa main était bien trop petite pour tenir dans la mienne et Jessica devait compter sur ma force pour atteindre le sommet de la colline. Et c'est alors que le Saint-Esprit me dit « Qui tient ta main ?» Je réfléchis et puis je répondis « Mais c'est toi, Seigneur ?» Et c'est tellement vrai, mes chers amis. Nous sommes tous comme ma petite Jessica. Nous sommes trop faibles pour tenir la main de Dieu, car c'est lui qui tient notre main. La Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 41, verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » C'est une promesse, bien entendu, de l'ancienne alliance et aussi de la nouvelle, car dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 28, il est dit que Jésus a dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 28. La première fois que je lus ce passage de l'Écriture sainte, je me suis écrié « Oh, merci Seigneur !» d'être descendu vers moi pour me tenir la main. Quelques années plus tard, alors que j'étudiais de nouveau ce passage, je me mis à louer le Seigneur en lisant le verset suivant, toujours dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, mais le verset suivant, donc le verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est bien plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Non seulement Jésus-Christ me tient la main, mais le Père aussi. Lorsque vous saisissez tout cela, vous pouvez être assuré qu'il ne vous lâche jamais votre main. S'il venait à le faire, c'est que vous l'auriez repoussé carrément. Le Seigneur nous tient et il nous conduit également dans le bon chemin. Car vous lui appartenez, il vous protège et il vous soutient. Le psalmiste nous dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume chapitre 37, versets 23 et 24. Et, toujours dans le psaume, mais chapitre 56, verset 14, il est dit, Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. Et ceci afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. La grâce de Dieu n'apparaît pas à un moment donné pour tout à coup disparaître simplement comme ça. Elle accompagne notre croissance spirituelle. L'apôtre Pierre nous dit que nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Comment pouvons-nous, chers amis, grandir dans la grâce? Eh bien, c'est en découvrant la grandeur de son amour, de sa patience, de sa miséricorde, et de quelle façon il va nous accepter. Oui, de mille manières, le Seigneur nous accepte et il nous dit « Je ne t'abandonnerai jamais, je t'aime et je te pardonne. » Lorsque nous tombons, il s'abaisse de nouveau vers nous et il nous prend dans ses bras. Et c'est ainsi que nous continuons à grandir dans la grâce. La parole de Dieu nous dit que Christ a été rempli de grâce et de vérité. Par exemple, dans l'évangile toujours de Saint Jean, chapitre 1, verset 14, nous continuerons encore un peu dans l'évangile de Saint Jean. Eh bien, dans le chapitre 1, verset 14, il est dit « Et la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Mais la parole de Dieu, c'est tout simplement Jésus-Christ, c'est la parole même. Elle est pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé toute sa gloire. Oh, une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et nous continuons dans le verset 17. Car c'est Christ qui nous a révélé cette merveilleuse grâce et cette merveilleuse vérité. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ enseignait à un groupe de personnes dans l'enceinte du temple de Jérusalem, eh bien les pharisiens lui amenèrent une femme et qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Une sale histoire. Eh bien, voyons un peu cela. Ils lui ont dit que Moïse, dans sa loi, ce qui est vrai, il nous a ordonné de lapider de telles femmes. Mais toi, que dis-tu? C'est écrit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 5. Eh bien, voyez-vous, Jésus, qui semble d'ignorer cette terrible question, se baissa pour écrire sur la terre avec le doigt. Et comme ils continuaient, eux donc, ils ont continué, croyez-moi, ils n'ont pas voulu lâcher prise. Donc, ils ont questionné toujours encore plus. Et alors là, Jésus-Christ se levait d'un coup, les a bien regardés dans les yeux, et leur a dit, eh bien que celui de vous, hein, qui est sans aucun péché, qu'il jette le premier la pierre contre elle. Saint Jean chapitre 8 verset 7. Oh, ça devait être un bon silence. Et comme il continuait à écrire sur la terre, tous ces terribles accusateurs se sont éloignés et Jésus-Christ se retrouva tout seul avec cette femme. Il se retourna donc vers elle et lui demanda « Femme, où sont tous ceux qui t'accusaient tout à l'heure ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi, je ne te condamne non plus. Va donc, mais ne pêche plus. » Évangile de Saint Jean, chapitre 8, versets 10 à 11. Christ a bien dit « Je ne te condamne pas non plus. » Ça, c'est vraiment la grâce merveilleuse. En disant « Va et ne pêche plus. » Et c'est cela la vérité. Cette femme a vu sa grâce et elle a décidé de ne plus jamais pécher selon ce qu'elle avait pratiqué jusqu'à maintenant. Lorsque, en toute sincérité, nous, vous, moi, que nous voyons son amour et sa merveilleuse grâce, eh bien, nous voulons aussi le servir, le suivre et renoncer à notre péché. Le Seigneur ne nous dit jamais « ne pêche plus » ou bien « fais plutôt cela ou ceci », à moins qu'il sache que nous sommes capables de le faire. Parce qu'il nous a donné le pouvoir d'obéir à ses commandements. Et il sait que nous pouvons le faire avec son aide. Et en ce sens, tout commandement est véritablement une promesse. Voyez-vous, chaque fois que je parle de la grâce de Dieu, quelqu'un ne manque jamais de me poser cette question. Mais la Bible ne nous dit-elle pas que nous devons travailler à notre propre salut? On peut voir cela comme ça si on pique un ou deux versets sans le contexte. Bien sûr, nous avons la réponse de saint Paul. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2 verset 12. Voyez-vous, il est nécessaire d'examiner le contexte de cette déclaration. Il est dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, nous l'avons vu, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, d'accord ? Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mais attention, mes chers amis, l'histoire ne se termine pas là. Elle se termine pas de cette façon-là. Ce n'est pas notre travail, mais c'est celui du Seigneur qui nous donne cette possibilité. Non ? Il n'existe pas, ou si vous voulez, il n'est pas très juste de tirer un verset de son contexte pour essayer de dire ce que nous voulons penser selon notre conception et le faire croire aux autres. C'est pas très juste. Car le verset suivant, toujours dans Philippiens, chapitre 2, mais verset 13, et celui-là, tout le monde l'a oublié, il dit ceci. « car c'est Dieu qui produit en vous, en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est ainsi que la vie chrétienne participe au salut que Dieu nous procure, et le Seigneur nous donne à la fois le désir et la force de faire ce qui lui plaît. Ce qu'il y a d'extraordinaire, chers amis, c'est qu'en laissant Dieu faire le travail en nous, il nous donne la capacité d'œuvrer à son salut. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées bien avant, afin que nous les pratiquions. Nous devons donc pratiquer les bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et le Seigneur ne réprouve pas nos efforts, pas du tout. Mais voyez-vous, ceux-ci se doivent d'être le produit de son ouvrage et de sa grâce, pas le produit de notre volonté propre. En fait, l'un des buts du Seigneur pour notre salut est que nous vivions une vie irréprochable. La Bible nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Oui, Dieu nous a en effet élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Donc, les bonnes œuvres ne sont que les sous-produits de ceux qui connaissent la grâce imméritée de Dieu. Le Seigneur nous donne la volonté d'aimer, de lui obéir et de le servir. Nous ne pouvons suivre le Seigneur tant qu'il ne nous a pas touchés. Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 44. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur tant que le Saint-Esprit ne nous a pas donné l'amour nécessaire pour l'aimer. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains, chapitre 5, verset 5. Lorsque vous recevez le merveilleux amour de Dieu, eh bien cet amour vous rend capable d'aimer. Lorsque vous vous sentez accepté par Dieu, vous acceptez aussi les autres. Lorsque vous recevez de Dieu, vous aussi vous donnez. En fait, c'est assez simple. Dieu travaille au-dedans de vous, de nous, et vous réalisez ses œuvres. Nous le laissons nous remplir afin de pouvoir déverser ses œuvres autour de nous. Nous coopérons d'abord et ensuite nous agissons. C'est important que nous agissons, n'est-ce pas? Garder tout cela que pour nous et de se mettre sur une chaise balançoire et se dire Moi, je suis sauvé. Alléluia. Tant pis pour les autres. Mais la Bible est claire à ce sujet. Aucune œuvre ne nous fera gagner le salut. Aucune. On est d'accord. Car il est dit dans Romains 4, aura celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Je répète, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, eh bien, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, versets 4 et 5. Ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, ce qui n'est pas défendu, que le Seigneur nous doit quelque chose. Il ne sera jamais le débiteur de quiconque. Nous ne disons pas « Seigneur, je l'ai fait, hein, tu l'as vu, et voici ma facture. » Si nous travaillons pour quelque chose, ce n'est en tout cas pas pour la grâce. Nous ne pouvons rien désirer, même pas connaître Dieu, sans que celui-ci n'ait mis en nous ce merveilleux désir. Évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 44. Dieu n'honore pas une personne qui lui dit « Oh, Seigneur, je vais prier pour telle et telle personne, et crois-moi, je vais le faire. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. » Mais Dieu dit « C'est l'œuvre de la chair, et je n'en veux pas. » Dieu n'accepte pas les œuvres et les prières qui sont simplement le produit de la chair. Un jour, en lisant le psaume 119, notez bien le psaume 119, il y a beaucoup à apprendre de ce psaume, et moi le premier. Eh bien, j'ai remarqué la façon dont David disait « Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais toi seul, tu le peux. » Et j'ai compris, à travers ce psaume, l'absolue dépendance qu'il avait avec son Dieu le Père. Il est dit au verset 17, nous avons dit qu'on est au psaume 119. Donc il est dit au verset 17, « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. » Et au verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et nous continuons au verset 19. « Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas. Pas tes commandements. » Et nous continuons au verset 22. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Nous continuons au verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Et au verset 27, il est dit « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Verset 27. Et ensuite, il est dit « Éloigne de moi la voie du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Verset 29. « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Verset 32. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Verset 33. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Verset 34. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je t'aime. Verset 35. Et incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Verset 36. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, mais fais-moi vivre dans ta voie. Verset 37. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour tous ceux qui te craignent. Verset 38. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Verset 39. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi donc vivre dans ta justice. Verset 40. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Verset 80. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Verset 117. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur et ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Verset 122. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Verset 133. Qui accomplit tout ce travail, chers amis? Est-ce David ou bien est-ce le Seigneur? Là, nous voyons clairement que David dit « Seul le Seigneur le peut ». Tout ce que nous devons faire, chers amis, c'est de renoncer à nos efforts et de le laisser faire. Comme David, demandons-lui donc aujourd'hui de venir et de mettre en vous, en moi, sa grâce. Et dites-lui, Seigneur, affermis mes pas, afin que je puisse marcher avec toi. Psaume 119, verset 133. La véritable prière est impossible sans le concours du Saint-Esprit. Souvenez-vous de cela. Comme beaucoup de chrétiens, je pense pouvoir chercher le Seigneur par mes propres moyens jusqu'au jour où j'ai lu le fameux psaume 119, verset 176, qui nous déclare « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Lorsqu'il s'agit de chercher Dieu, n'oublions pas que c'est lui qui nous cherche en premier. Comme A. W. Tozer, le fameux écrivain biblique, nous le dit, avant qu'un homme ne puisse chercher Dieu, Dieu doit d'abord avoir cherché cet homme, cette femme. Depuis ce jour, je demande quotidiennement au Seigneur de me toucher afin de l'invoquer et qu'il me donne la force de le chercher. David dira lui-même dans ses psaumes, « Fais-nous revivre et nous invoquerons ton saint nom. » Je répète, David nous dit, « Fais-nous revivre et nous invoquerons ton saint nom. » Psaume, chapitre 80, verset 18, dans la version Darby. Ce n'est pas par nos actes, mais c'est par sa grâce. J'ai entendu une incroyable définition de la grâce un soir lors d'un programme télévisé chrétien. C'était pas mal. C'était même très bien. Et croyez-moi, ça vaut la peine. Un soir donc, j'ai bien dit, à la télévision, lors d'une émission chrétienne, j'ai en effet entendu une fameuse, merveilleuse émission. Et le prédicateur a parlé de la grâce. Et il a attiré mon attention quand il a dit « Je vais vous expliquer ce que c'est réellement la grâce ». Imaginons qu'un homme vienne à perdre son unique enfant qui a été victime d'un horrible meurtre, d'un épouvantable meurtre. Et il se trouve devant trois possibilités de choix. Soit de tuer le meurtrier pour avoir ôté la vie de son unique enfant, et ceci avant, afin de se venger, ou laisser la loi faire son travail pour que justice soit rendue. Alors il y a encore une troisième solution, c'est de lui pardonner le meurtre horrible, de l'adopter et lui donner la place de son fils. C'est, selon la Bible, c'est cela la véritable grâce. Je répète, pardonner à ce terrible meurtrier, aller jusqu'à l'adopter et lui donner la place de son fils ou de sa fille, c'est cela la grâce. Eh bien, chers amis, je dois vous avouer quelque chose qui vous montrera que je suis pas très merveilleux, moi. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à vous mentir. Je ne vous mentirai jamais. Et je veux toujours rester honnête. Donc, je vous avoue personnellement, et je demande sincèrement pardon au Seigneur, et pardon, car je pourrais, à la longue, certainement, pardonner, mais voyez-vous, je ne pourrais jamais pardonner à cet homme et de lui donner la place de mon fils ou de ma fille. Ou si je demande également pardon aux auditeurs en vous confessant franchement que j'ai encore du chemin à faire. Hélas, hélas. Par contre, il est vrai que nous sommes Et nous sommes en effet, et moi y compris, nous sommes ceux qui avons mis Jésus-Christ sur la croix. C'est bien vrai. Et c'est pour nos péchés, et c'est pour nos iniquités que Christ a versé son précieux sang. Et grâce à sa mort sacrificielle, lorsque nous nous repentons de nos fautes et que nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien Dieu nous pardonne. Et de plus, nous sommes adoptés dans la merveilleuse famille de Dieu. La Bible nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 1. Les paroles d'un certain cantique sont tellement vraies. Grâce infinie, amour si grand. Un jour Dieu m'a sauvé. J'étais perdu, brisé, souffrant. Quand il m'a retrouvé, la grâce du Père est si grande que Jésus-Christ a dit « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 23. Et si grand est son amour que le psaume 139, verset 17, nous affirme que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Oui, en effet, il nous aime, mais en plus il pense à nous tout le temps. La Bible nous dit que Dieu ne nous oubliera jamais. Ésaïe, chapitre 49, versets 15 et 16, nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, eh bien moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai même gravé sur mes mains. » Ce passage des Saintes Écritures nous parle d'une coutume orientale. Car lorsque une mère devait se séparer de l'un de ses enfants, elle devait graver le nom de cet enfant sur la paume de sa main. Comme tous les jours de sa vie, elle les passait à travailler de ses mains. Les marques sur sa paume étaient là pour lui rappeler à tout instant l'enfant qu'elle aimait et qu'elle avait hâte de revoir le soir. Le Seigneur pense à vous, chers amis, tout autant et même davantage. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas son amour. Ils l'acceptent pour échapper à l'enfer, tout simplement. Il l'accepte par une sorte de crainte. Il cherche une issue de secours au milieu des flammes. Ceux qui le reçoivent à cause de leur fameuse peur désirent toujours faire quelque chose pour se prouver qu'ils sont véritablement sauvés. Mais leur crainte les entraîne vers un légalisme futile et des œuvres inutiles. Par ailleurs, celui qui accepte Christ par amour découvre que ce n'est pas par mes œuvres mais que c'est par les siennes. Il voit donc combien Christ est amour. Si vous voyez son amour, vous ne voyez pas la défaite. Et si vous voyez le ciel, vous ne voyez pas l'enfer. Si vous voyez sa miséricorde, eh bien, vous ne voyez pas le jugement. Voyez-vous, la plupart des gens sont dans la salle d'audience depuis bien trop longtemps. Chaque fois qu'ils se tiennent devant le Seigneur, ils se voient devant un juge terrible. La parole de Dieu nous dit pourtant, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient donc point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alléluia. C'est écrit dans Saint Jean chapitre 5, verset 24. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été cloué à la croix, votre sentence de mort a été levée. Le Père Céleste a retiré sa robe de juge et il a posé son marteau et il a déclaré « Entre maintenant dans le salon, viens à la maison. » Au lieu de le voir présider une cour de justice, je le vois au milieu du salon familial, attendant le retour de ses enfants. Lorsque vous vous repentez et que vous acceptez la grâce de Dieu, il vous adopte et vous fait partie de sa merveilleuse famille. Dieu ne vous a pas reçu pour vous chasser. Et pourquoi vous chasserait-il plus tard? Absolument pas. Il ne vous menace pas de vous expulser de sa famille. Mais le Seigneur nous fait entrer et il nous garde à l'intérieur. Il y a bien longtemps, le Seigneur a parlé par son prophète Jérémie et il a dit « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Et ceci afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Jérémie chapitre 32, verset 38 à 40. En aucun cas, les enfants d'Israël n'auraient péri, car Dieu a même dit ceci. Il a dit, les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à mes yeux. Jérémie 32, verset 30. Mais il ne leur a pas donné pour autant ce qu'ils auraient mérité. Il les a couverts de sa grâce éternelle et leur a conservé son amour. S'adressant à Israël, Dieu leur dit « Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31, verset 3. Donc, c'est la grâce qui nous sauve de l'enfer en ne nous infligeant pas le châtiment que pourtant nous méritons tous. Mais la grâce nous fait entrer dans les lieux célestes en nous donnant la récompense. Excusez-moi, je répète. Mais la grâce nous fait entrer dans les lieux célestes. C'est merveilleux. Et ceci en nous donnant la récompense, pourtant, une récompense que nous ne méritons même pas. Oui, en effet, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Et l'apôtre Paul a écrit, dans Romains chapitre 5, verset 20, « La loi est intervenue pour que l'offense soit abandonnée. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. » C'est Romains chapitre 5, verset 20. C'est beau cela. Hein? La loi est intervenue. Et ceci pour que l'offense puisse être abandonnée. Mais voyez-vous, là où le péché a abondé et où le péché a été quand même très grand, heureusement pour nous que la grâce a surabondé. Autrement, on était, comment quelqu'un avait dit, il m'avait dit un jour, les carottes sont cuites. C'est un peu ça. Eh bien, je suis, chers amis, reconnaissant au Seigneur, car le sang de Christ est vraiment la grâce de Dieu, et c'est une grâce merveilleuse, et elle est beaucoup plus puissante que toutes nos iniquités. Le péché abonde peut-être, mais par contre la grâce surabonde. Et si vous, vous êtes repenti, et je l'espère, et avez reçu cette merveilleuse grâce de Dieu, vous êtes tout simplement pardonné et vous avez découvert la vérité de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29, où il est dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise carrément, celles qui ne sont point, pour réduire à néant complet celles qui sont, afin que nulle chair, que nulle personne puisse se glorifier devant Dieu. Et bien sûr qu'il y en a tous les jours qui nous disent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et même il y en a qui prétendent que ça se trouve dans la Bible. Mais, mes chers amis, j'ai jamais trouvé cela dans ma Bible, ni dans aucune de mes nombreuses versions en allemand et en anglais. On ne trouve à nulle part ces fameuses paroles « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Si vous pensez être un petit Dieu qui peut résoudre tous les problèmes, tant mieux pour vous. Le Seigneur, croyez-moi, vous laissera faire comme bon vous semble. Mais seul Christ peut transformer le cœur de l'homme. L'humanisme nous déclare « Vous êtes le maître de votre destin. Vous avez le pouvoir de vous aider vous-même. » Mais Jésus-Christ nous dit dans Saint Luc chapitre 4 verset 18, que l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de son Père, parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer totalement libres les opprimés. Saint Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Nous sommes les pauvres, nous sommes ceux qui ont le cœur brisé, nous sommes les captifs, les aveugles et les opprimés. Dieu ne nous demande pas de nous aider nous-mêmes. Il nous demande juste de dépendre entièrement de lui. La Bible n'enseigne pas l'indépendance totale. Elle proclame notre dépendance envers Dieu. Un jour, je crois que un homme, si je me rappelle bien, m'a posé une drôle de question. Monsieur, si Dieu fait tout, comment peut-il y avoir un choix puisqu'il fait tout? C'était une bonne question, bien sûr. Mais avant d'être sauvé, ai-je répondu, avant d'être sauvé, cher ami, avez-vous vraiment cherché le Seigneur, ou bien est-ce que c'est lui qui vous a cherché? Il a répondu, oui, je crois bien que c'est lui qui m'a cherché. Et avez-vous produit la foi pour croire? Avez-vous vraiment produit la foi vous-même pour croire? Ou bien est-ce le Seigneur qui vous a donné la foi? Oui, je reconnais que c'est bien le Seigneur qui m'a donné la foi. Donc, si Dieu a fait toutes ces choses qui vous gardent à présent, je répète, si Dieu a fait toutes ces choses, qui donc vous garde maintenant? Est-ce vous? Et qui vous conduira dans les lieux célestes? Qui c'est qui vous conduira? Pourrez-vous le faire vous-même? Et puis je lui dis encore, vous n'êtes pas concerné. Tout cela est fort bien, mais où est donc le choix? Tout ce que vous avez à dire, c'est de dire simplement oui, Seigneur Jésus-Christ, oui, et toutes ces choses seront à vous. Votre choix, c'est donc simplement d'accepter ce qu'il a fait pour vous, car c'est lui qui a tout fait pour vous. C'est lui qui est allé à la croix pour mourir à votre et à ma place. C'est lui qui a fait le sacrifice pour me racheter, pour vous racheter. Et c'est pas vous, c'est pas moi. Alors un large sourire a illuminé son visage. Et il a dit, oh, maintenant j'ai compris. Oui, en effet, voyez-vous, chers amis, Christ a déclaré à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai même établi. Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Cependant, l'Écriture sainte nous avertit que nous ne devons jamais faire une mauvaise utilisation de la grâce de Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Car le salut est à nous grâce à l'œuvre du Seigneur et non en raison de notre fameuse perfection. Quelle est la cause de notre échec? Il se produit lorsque nous ne faisons plus confiance à Dieu et que nous commençons à ne compter que sur nous-mêmes. Voici ce que le prophète Ézéchiel a déclaré. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Ézéchiel 33, verset 13. Je pense que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes en sécurité. Mais nous pouvons risquer de perdre ce que Dieu nous a donné, car l'apôtre Pierre nous déclare, dans sa deuxième épître, au chapitre 2, verset 20, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau et qu'ils sont vaincus, eh bien, alors là, leur dernière condition est bien pire que la première. Car mieux vaut pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Est-ce que nous ne devrions pas répéter ce verset de la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21? Redisons cela. Il est dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, et du Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau et sont vaincus, que nous sommes vaincus, eh bien, leur ou notre dernière condition va être pire que la première, ça c'est certain. Car mieux vaut donc, pour eux, pour nous, n'avoir jamais connu la voie de la justice, que de se détourner après avoir connu tous les merveilles du Saint Commandement qui nous ont été donnés. C'est Dieu, croyez-moi, qui nous choisit, mais évidemment, il nous laisse toujours le choix d'accepter ou de refuser. C'est ça le libre choix. Si quelqu'un surgit devant moi et braque son arme contre ma tempe, et qu'il me dit « Renie Christ, ou alors tu meurs ?» Je répondrai « Tirez donc si ça vous fait plaisir. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Mais simplement parce que mon engagement à Christ n'est pas temporaire. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète, votre engagement et mon engagement envers Christ ne devraient pas être temporaires, car ils devraient être éternels. Voyez-vous, quand j'ai rencontré le Seigneur, ce ne fut pas un simple petit frisson passager, lever la main, chanter un petit cantique et dire Alléluia. Non. C'était une expérience ponctuelle. Mais à ce moment précis, croyez-moi, à ce moment-là, je suis devenu une nouvelle personne. Il s'agissait d'une nouvelle naissance instantanée. Et le salut est maintenant permanent. C'est pas de passage pour 24 heures. Quelle devrait donc être notre réaction vis-à-vis du Seigneur pour répondre à l'éternité qu'il nous offre, qu'il vous offre, chers amis? Je crois que le psalmiste a déclaré au psaume 116, verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances, oui, des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion, et l'Éternel, croyez-moi, garde tous ceux qui sont humbles et simples. » C'est une certaine version allemande. Mais, chers amis, il y en a qui croient parce que on dit le mot humble et simple que ça doit être une personne qui est simpliste, stupide, imbécile. Absolument pas. Oh non. S'il vous plaît. Ah non. C'est bien le contraire. Voyez-vous, être simple, selon la Bible, veut dire humble et simple. Et cela veut dire également, c'est le contraire d'être orgueilleux et tellement imbu de soi. J'espère que vous avez compris. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, versets 5 à 7. Donc, chers amis, en terminant, je vous dirai ceci, que le salut est encore meilleur que nous ne pouvons l'imaginer. Nous avons la pleine assurance qu'il achèvera en nous ce qu'il a commencé, qu'il s'est engagé à nous garder. Notez Philippiens chapitre 1, verset 6. Oui, il veut nous garder. Il s'en est engagé. Mais comment le savoir dans notre cœur, chers amis? Je crois que la réponse se trouve dans la compréhension que nous avons du fameux sceau de l'Esprit Saint. Chers amis, je voudrais vous donner quelques mots d'encouragement avant de terminer ensemble par la prière. Silence. Faites silence devant Dieu. Efforcez-vous de connaître sa volonté pour l'accomplir ensuite en toutes choses. Demeurez dans son amour, cultivez une atmosphère d'amicale compréhension à l'égard de tous les hommes, de toutes les femmes. Et c'est à vous de faire cela. Dieu, oui, Dieu, lui-même vous entoure d'un merveilleux écran protecteur qui vous tient à l'abri de tout mal. Et c'est votre état d'esprit habituel. Ce sont vos propos et vos actes à l'égard des autres qui vont créer l'atmosphère en question. Son désir, c'est de vous donner toutes choses et une bonne mesure. Une mesure tassée, secouée et débordante. Soyez donc prompt à recevoir. Vous n'avez qu'une faible idée de l'impatience divine à pouvoir vous combler. Un souci vient-il troubler votre esprit ou un mouvement d'impatience? chassez-le sans perdre un seul instant. L'amour et la confiance dissolvent les soucis, ils dissolvent les tracas et les agacements de la vie. Appliquez immédiatement le remède. Vous êtes des canaux. Sans qu'ils soient complètement obstrués, les canaux peuvent être rongés par les agacements, les impatiences et les soucis. Et à la longue, ils deviennent, hélas, inutilisables. Préservez Dieu et persévérez avec Dieu. Car Dieu le répète, persévérez. Ne perdez donc jamais courage, car Dieu vous aime. Prions maintenant. Seigneur, tu as promis le don de ton Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Et nous venons donc implorer ce don précieux. Nous venons pour supplier de jeter sur nous un regard de miséricorde et d'inspirer à chacun de nous le besoin de te prier conformément à tes promesses, afin que tous nous soyons convertis, tous nous marchions devant toi dans une vie nouvelle, et tous nous soyons appelés à te bénir et à te glorifier éternellement. Ô notre Dieu, sanctifie-nous par ta merveilleuse parole, rends-nous saints, car tu es saint. Délie les liens qui nous retiennent encore captifs sous la loi du péché. Introduis-nous dans la liberté de tes enfants. Donne-nous l'intelligence de tes commandements, le désir sincère et inébranlable de les mettre en pratique et le besoin de nous dévouer à ton service et la fidélité dans les petites comme dans les grandes choses. Élève nos pensées au-dessus des agitations de cette vie et fais planer nos âmes sur les ailes de la prière dans les régions de la paix et de la sainteté. Ô Seigneur, que nous apprenions à te prier sans cesse et que la prière du cœur nous devienne familière et précieuse, que dans toutes nos peines ou nos joies, nous sachions te chercher et souffrir ou jouir en toi uniquement. Donne-nous donc la charité pour partager les souffrances d'autrui et la ferveur pour implorer ton secours envers tous ceux qui en ont tellement besoin. Répands tes bénédictions sur nos familles et nos amis et daigne, ô Dieu tout bon et tout puissant, de recevoir notre prière pour l'amour de Jésus-Christ, notre adorable Sauveur. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez donc bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez pour ces études. Et à bientôt à nouveau, je l'espère. Au revoir, mes chers amis.